Et voilà, donc maintenant je vais donner la parole au prochain journaliste. Merci beaucoup.
Ma première question pour vous se base sur un contexte assez précis. En quoi les réseaux sociaux ont-ils constitué une aide durant le printemps arabe?
Je suis totalement d'accord. Les réseaux sociaux ont pu aider les pays durant certains pays durant le printemps arabe, notamment ceux du Maghreb. En effet, ils ont été utilisés comme un moyen de mobiliser des peuples, avec l'exemple que ce soit en Tunisie, en Égypte ou encore en Libye, de mobiliser les peuples, d'organiser certaines manifestations. Les réseaux sociaux peuvent aussi modifier la dynamique de distribution de l'information qui était monopolisée par les despotes dans les pays du Maghreb. Ils permettaient aussi d'exprimer diverses opinions et donc grâce au rôle des réseaux sociaux dans les printemps arabes de mobiliser des peuples, de se rassembler, de manifester, ils ont réussi, prenons l'exemple de la Tunisie, de faire partir le président Ben Ali qui était au pouvoir depuis 23 ans et c'est grâce à ces manifestations qu'il a pris la fuite et que la dictature, entre guillemets, a pris fin. Donc la Tunisie maintenant est le premier pays du Maghreb lors du printemps arabe à avoir effectué sa transition politique. Voilà.
Merci beaucoup Monsieur Couturier pour votre réponse. J'aurais une deuxième question à vous poser. Pourquoi qualifier les réseaux sociaux d'outils de la déconsolidation démocratique?
Donc la déconsolidation démocratique laisse entendre une destruction de la démocratie et donc de la liberté de pensée et d'opinion. Donc certes, les réseaux sociaux ont de nombreuses qualités. Cependant, donc de l'autre côté, il y a une certaine facilité pour manipuler les opinions et les radicaliser. Donc, c'est ce que je vais montrer justement à travers ce que je vais dire. Les réseaux sociaux favorisent la polarisation des opinions. Donc, pour se sentir inclus et accepté dans un groupe avec une opinion partagée, un individu va surenchérir sur les idées et opinions déjà émises et ainsi totalement mettre de côté donc ce qu'il pense réellement. Cela va créer une radicalisation des opinions. Et donc, l'opinion de groupe va se limiter donc à une opinion qui ne représente pas du tout celle des individus. Donc, cela va créer de nombreux groupes à l'idée politique extrémiste, tels que des groupes xénophobes, islamophobes, d'extrême droite. Par exemple, on peut donner l'exemple du Tea Party, qui était contre Obama. On peut aussi parler d'un autre phénomène, c'est-à-dire celui de la bulle de filtre qui est sur les réseaux sociaux. Donc tout simplement, certaines personnalités ou certains groupes peuvent payer les réseaux sociaux afin de changer l'algorithme pour venir soutenir certaines opinions. Donc par exemple, si un individu va penser à quelque chose, qu'elle soit fausse ou vraie ou pas, quelles que soient ses recherches, cela va confirmer cette opinion, alors même qu'elle n'est pas forcément vraie. Donc tout cela, c'est évidemment contre-démocratique puisque la vérité est mise au second plan. Et donc, ça va créer la disparition du monde commun où la vérité et la démocratie est la priorité pour laisser place à un monde où tout est fait pour plaire et donc où la manipulation est en premier plan. Voilà.
Merci beaucoup. Dernière question, M. Couturier. Faudrait-il laisser faire ou contraindre les plateformes pour protéger la démocratie?
Ah oui, en effet, tout d'abord, merci de me poser cette question. J'aimerais rappeler que, avant tout, les plateformes, les réseaux sociaux en général, sont des entreprises privées. Et n'oublions pas que des entreprises ont un but lucratif, c'est-à-dire à maximiser leurs profits. Or, quand on connaît que de telles entreprises ont eu le droit, totalement arbitrairement et autoritairement, de pouvoir fermer le compte d'un président américain encore en vigueur, ça pose la question, est-ce qu'il faut restreindre ces plateformes? Donc, en effet, Donald Trump, qui c'était ce qui a été bien évidemment exclu de la plateforme, est allé à l'encontre des moyens d'utilisation de la plateforme à travers son appel de haine sur les réseaux avec les événements du Capitole américain du 1er janvier 2021 où il a appelé ses électeurs notamment à se révolter face aux résultats des élections. Ceci a entraîné de nombreux dégâts, même civils, abouti limite à un pseudo coup d'État qui a été avorté heureusement, ce qui n'a jamais été vu en Amérique. Le problème provient donc du fait que Twitter, étant une organisation privée, a pu totalement censurer le président américain. Or, en plus de cela, le président américain, juste du fait qu'il soit le président, montre qu'il représente une grande partie des pensées américaines. Ainsi, en le censurant, on censure tout son côté électoral, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui ont pu voter pour lui et toutes les pensées qu'il défend. Donc ainsi, Twitter amène à filtrer les informations qu'ils veulent en éliminant plus les pensées des conservateurs qui sont censurés sur la plateforme et va laisser plutôt place à des opinions plus de gauche, à l'instar donc de ces derniers, et ainsi favoriser leur profit en favorisant les opinions de gauche. De plus, quand on sait que, par exemple, le Community Decency Act de 1996 défend totalement les plateformes, on se pose la question de ces plateformes n'ont-ils pas finalement le pouvoir ultime, parce que le pouvoir de manipuler les opinions publiques devient un pouvoir de pouvoir totalement manipuler la démocratie.
Merci beaucoup, Monsieur Couturier, pour vos réponses.
Il n'y a pas de quoi.
Nous allons maintenant passer à Loïc Nicolas, l'auteur de l'ouvrage « Les théories du complot comme miroir du siècle ». Donc, Monsieur Nicolas, ma première question pour vous est: pour quelles raisons l'opposition aux conspirationnistes à travers l'argument de l'irrationalité de leurs croyances peut-elle s'avérer être un combat plutôt délicat ?
Alors, merci pour votre question. Tout d'abord, on ne peut pas dire que l'argument de l'irrationalité soit valable pour toutes les théories du complot entièrement. D'une part, parce que nous sommes tous enclins à chercher les causes d'un événement dramatique pour y trouver apaisement et quiétude. D'une autre part, voir un complot derrière un drame nécessite un réel travail d'argumentation et de raisonnement afin de trouver les causes, les explications et de mettre en lien plusieurs événements et d'y mettre un sens, de se rendre maître de l'explication pour l'expliquer. Et enfin, il y a aussi eu plusieurs complots dans le passé, ce qui rend normal la possibilité qu'il y en ait encore, d'autant plus qu'on a une réelle défiance vis-à-vis des médias et une corruption du personnel politique.
Merci, Monsieur Nicolas. Nous avons bien compris à travers ce colloque qu'un des objectifs primaires dans la quête de la protection de la démocratie était d'étouffer les théories du complot. Seulement, dans quelle mesure la censure peut-elle s'avérer être un mauvais moyen de combattre les théories du complot ? Et faut-il réellement condamner ces théories ?
Donc, merci pour votre question. En effet, dans une société démocratique, empêcher la population de croire en ce qu'elle souhaite, aussi farfelu soit-il, serait entraver les valeurs mêmes de la démocratie et instaurer donc une police de la pensée. Condamner ces croyances conduirait à les renforcer, car cela aurait pour effet d'attiser la curiosité sur ces croyances interdites, car les conspirationnistes vont penser que l'État veut les faire taire car ils détiennent la vérité. Par ailleurs, nous pouvons condamner ces théories car si celles-ci seraient réellement faussées ou pittoresques, très peu de gens seraient enclins à y adhérer à ce phénomène, n'auraient donc pas la même ampleur que celle enregistrée aujourd'hui. D'autre part, en ayant recours à la censure afin de mieux condamner ces théories, nous donnerions raison aux fabulateurs sur la volonté de maîtriser les populations en leur limitant leur liberté de penser. Ainsi, nous ne ferions qu'amplifier les théories. Cela va donc donner de l'importance aux croyances et va les fortifier au lieu de les dissiper. D'un autre côté, avec la censure, il faut noter que nous, en tant que personnes, sommes plus attirés vers les choses qui nous sont interdites. C'est-à-dire que plus on va nous interdire quelque chose, plus on va vouloir se renseigner et faire des recherches dessus, et ça va donc créer un espèce d'effet d'emballement, c'est-à-dire que on va tomber dans une espèce de cercle vicieux. Donc plus on va faire de recherches, plus on va se poser des questions, on va avoir des réponses qui vont encore nous pousser à se poser de nouvelles questions et donc créer, comme j'ai dit, un cercle vicieux.
Merci pour votre réponse. Et enfin, ma dernière question pour vous est: en quoi les valeurs de la modernité se rapprochent de celles du conspirationnisme et peut même promouvoir en quelque sorte la diffusion des théories du complot ?
Tout d'abord, je pense qu'il faudrait rappeler quand même les valeurs de la modernité. Donc la modernité, ça correspondrait à notre désir actuel de tout rationaliser et donc de chercher une explication logique dans des phénomènes qui peuvent parfois paraître aléatoires. Donc la montée en popularité de l'exercice, voire l'exhibition de l'esprit critique par les individus en société, peut être qualifié comme un polissage systématique des irrégularités du monde et donc la répression de la volatilité et des pressions de l'environnement. Donc on peut mettre ça, on peut mettre ce phénomène en lien avec notamment notre surcroyance justement en la science et en la valorisation de la science comme seule voie d'accès à la connaissance. Et donc justement, ça va créer une sorte de désynchronisation entre justement les phénomènes qui sont perçus directement et les phénomènes qui sont prouvés scientifiquement. Donc on va chercher une explication logique derrière des phénomènes qui sont parfois aléatoires et ça va donc Ça va donc créer ce phénomène de mythe du contrôle absolu. Et ça peut notamment être expliqué par le fait qu'en tant qu'individu, on a envie d'avoir une conception du monde qui est maîtrisable, et donc l'idée d'un ordre juste qui ne peut pas être perturbé par le hasard, mais seulement par des forces naturelles ou des choses qui sont expliquées rationnellement. Et donc, cette valorisation de la science ou de la rationalité en général aura entraîné une tendance au scepticisme vis-à-vis du monde sensible, du monde où les apparences seraient conformes au réel. Ce décroissement de la popularité de la mythologie en société, donc cette croyance au hasard, aurait donc contribué à la montée parallèle de cette modernité, prônant l'esprit critique comme forme d'intelligence. Et on peut mettre cela en lien avec les théories du complot, car c'est justement cette désynchronisation entre les concepts et le monde visible qui contribue à l'avènement des théories du complot. En effet, cette différenciation entre ce qui est dit et ce qui est concret, visible, vrai, participe à la création de théories affirmant que le hasard, et donc par extension les phénomènes non rationalisables, tels que ceux prônés dans les mythes, ne sont pas assimilables au monde véritable, et donc que tout est faux et qu'on doit trouver une explication à cette fausseté.
Merci pour vos réponses qui ont été très claires. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue qui va se charger des questions adressées à Monsieur Gastineau.
Monsieur Gastineau, alors j'aurai une première question à vous adresser en premier lieu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le mouvement Qanon ?
Alors avec plaisir. Donc le mouvement Qanon est un mouvement que j'ai longuement étudié de par sa complexité. C'est un mouvement qui est un mouvement politique et anarchiste qui a débuté aux États-Unis sur le réseau social 4chan. Il y a maintenant environ 5 ans de cela. Il a débuté notamment sur le réseau social grâce aux activités d'un utilisateur surnommé Q. Alors depuis son apparition, le mouvement s'est démocratisé, notamment aux États-Unis comme dit précédemment, et il a même dépassé les frontières du numérique, ce qui, on le sait, est très compliqué normalement. Et il s'est d'ailleurs énormément développé en dehors du réseau social, dans la vie réelle. Alors le complot accuse de nombreuses personnalités politiques et publiques, telles que des acteurs hollywoodiens par exemple, accusés de camoufler et de diriger un réseau pédophile. Donald Trump se présente comme le messie, le sauveur, se mettant en péril et sortant de l'indifférence pour exposer ce complot provenant du Deep State, selon les conspirationnistes et adeptes de Qanon. Alors les jeux ARG, ou jeux à réalité augmentée, sont des jeux envahissant la vie quotidienne de ses adeptes. Ces jeux mettent en scène la vie réelle à travers des histoires fictives. Les limites entre la réalité et la fiction sont donc souvent transgressées. L'envahissement de ces jeux dans le monde réel ou la fiction devient une réalité pour les joueurs, le temps du jeu bien sûr. Ce sont donc des jeux intégrant la réalité et la modelant aux besoins du jeu afin de l'alimenter, mais avant tout cela, ça reste un simple jeu.
Merci pour vos explications très très claires. J'aurais encore une autre question. Qu'est-ce que la gamification du complotisme et comment expliquer sa naissance ?
Alors, en temps normal, la gamification, on parle de ça quand on transforme le monde donc réel en monde un peu ludique. C'est quand on intègre des éléments du jeu dans le monde réel. Mais ici, bien sûr, on parle à l'échelle d'un complot du mouvement Qanon, du coup. Donc, à cette échelle, on remarque que le mouvement Qanon, c'est un réel jeu de piste. En effet, on remarque une certaine apophénie chez les membres du mouvement Qanon, c'est-à-dire qu'ils voient des signes partout autour d'eux, là où il n'y en a pas. Ça revient à regarder les nuages ou l'horoscope en pensant que c'est la réalité, en voyant des formes dans le nuage en pensant que c'était la réalité. Moi, à ce stade, je préfère utiliser même le terme de paranoïa des signes, où on voit des signes partout, partout dans le quotidien notamment. Ça peut être sur les réseaux sociaux, donc, par exemple, juste voir un simple tweet d'un représentant du gouvernement américain et penser qu'il y a un quelconque sens caché. Et c'est ainsi, du coup, que cette gamification du complot est née. C'est à travers les réseaux sociaux. Car effectivement, tous ces petits signes quasiment invisibles, car ils sont inexistants en temps réel, cette paranoïa des signes, naît sur les réseaux sociaux, par le partage de ces théories, normalement fausses, mais qui ici, du coup, sont partagées à de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.
Alors, d'après Eric Viennot, le risque du mouvement Qanon lié aux ARG a un potentiel très très fort et un potentiel politique. Alors, d'après Eric Viennot, celui-ci est énorme. En effet, dans les jeux de réalité virtuelle, les jeux recherchent l'immersion absolue. Ce fameux moment où on ne sait plus faire la distinction entre la réalité et le fictif, tout simplement. Alors, l'implication des joueurs dans l'ARG est énorme. Donc, ça le transforme en une arme dangereuse, très dangereuse même. Et Eric Viennot s'est senti donc coupable et a donc dû parler avec un psychologue de ce potentiel-là. Le potentiel a été confirmé par ce psychologue. Eric Viennot révélera même que si jamais il arrivait un jour à créer une secte, il aurait déjà des milliers d'adeptes grâce à ces jeux ARG.
Et donc, mais maintenant, il faut faire une claire différence entre les jeux ARG et le mouvement Canon. Les jeux ARG, c'est un jeu. Le mouvement Canon n'est pas un jeu. Le mouvement Canon profite et exploite cet aspect des jeux ARG, donc c'est un point commun qu'on trouve dans les deux, dans son propre intérêt. Les personnes rejoignant le mouvement Canon n'ont pas conscience qu'ils sont en train de rejoindre un mouvement qui suit les mécaniques d'un jeu vidéo. Enfin, de jeu ARG plutôt, excusez-moi. Et donc, de cette manière, en réalité, là où le risque se présente vraiment, c'est que quand on joue à un jeu, on a une certaine attache à la réalité. On est conscient qu'on joue. On est dans un cadre ludique. Alors que là, quand on rejoint le mouvement Canon, on est dans un monde ludique. Le monde ludique devient notre réalité. Et c'est là que le danger se pose réellement. Car il n'y a rien qui rattache les anones, donc les adeptes du mouvement Canon, à la réalité. Pour eux, tout ce qu'ils pensent est réel. Tout ce qu'ils suivent du mouvement est la stricte réalité. Et ce n'est pas un simple jeu. Et c'est là que cet aspect de communauté, cet aspect de secte, donc oui, le mouvement évolue en secte, là où tout le monde croit la même chose et pense que c'est strictement la réalité et non plus simplement un jeu. Donc, Eric Viennot dira même avoir vu des gens acquérir un statut, un pouvoir, des amis et même une reconnaissance au sein de la communauté. Et donc, cela finit par rassembler, à ressembler à une certaine seconde famille, un endroit où on est tous ensemble, où on se comprend entre nous.
On vous remercie, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter et d'apprécier ce colloque. Bien sûr, on remercie également nos chers invités de s'être présentés et d'y avoir participé. Au revoir. Thank you.